Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, pour cette émission, histoire d'en savoir plus, nous allons vous faire voyager au pays de la bière. Mais le pays de la bière, c'est Dreux. Voilà. Grâce à mes invités, M. Fred Conant et Michel Kirzin qui brasse. C'est vraiment quelque chose. C'est pour ça que je vous ai demandé de venir nous expliquer ça. Alors, d'abord un peu d'histoire quand même. La bière, finalement, c'était la boisson commune des scolaires dans les années 60. Et puis, on n'en parlait plus. Et puis maintenant, on voit partout des brasseries locales, des expériences. Bon, alors.
Bon, on va donner la parole à Michel.
Historiquement, la bière est très, très, très ancienne. Il semblerait qu'on en ait retrouvé en Israël, des grains d'orge maltés qui ont été datés, on ne sait pas trop comment, de 13 000 ans. Et également des vieux pains qui ont été découverts en Jordanie qui dateraient de 14 000 ans. Mais en fait, la bière, elle, a été, on ne sait pas depuis quand exactement, mais sans doute que c'est apparu au moment du néolithique, au moment où l'agriculture s'est faite jour dans tous ces pays de la Mésopotamie, dans tout le Moyen-Orient. Et à ce moment-là, l'orge qui a été humidifiée a fait du malt, qui ensuite a pu être, s'est travaillé sans doute de façon naturelle, avec des levures naturelles qu'on trouve dans l'air, dans le sol, etc., et qui ont permis de faire une boisson, et également le pain. Ce qui fait qu'en fait, le pain, c'est de la bière, ou la bière, c'est du pain. Le problème reste entier. On peut se poser
la
question.
C'est comme la poule et l'œuf, non ?
C'est l'histoire de la poule et l'œuf. Voilà.
Alors, on parle des Gaulois et de la Cervoise. Mais
voilà.
Enfin, bon.
Voilà. Alors, à l'origine, la bière était plutôt réservée aux classes populaires, même dans la société romaine. C'était les Romains buvaient de la bière et les barbares, eux, buvaient de la Cervoise. Alors, quelle est la différence schématiquement entre la cervoise et la bière? La fabrication est quasiment la même, sinon que dans la cervoise, il n'y a pas de houblon. Et c'est le houblon qui a donné les lettres, qui a permis de fabriquer de la bière. Et une fabrication fermentée sans houblon, c'est de la cervoise. Donc la cervoise existe toujours.
Oui, c'est finalement un petit mélange de cuisine qui
c'est
peut se faire.
C'est un petit mélange, voilà.
Ouais, grosso modo, on est dans la cuisine.
On est dans la cuisine.
Bon, alors qu'est-ce qui vous a donné à vous l'envie de faire de la bière? Parce que finalement, c'est quand même...
La bière, c'est une histoire ancienne, hein, pour nous aussi. Mon fils faisait ses études à Arras.
Oui.
Nord de la France.
Nord de la France, hein, voilà. Donc on boit l'endroit où
et
on boit plus de bière que de vin.
Évidemment, je suis allé voir mon fils à Arras. Or, dans les grandes surfaces à Arras, on vend des kits pour faire de la bière de ménage. Petit paquet rempli d'espèces d'herbes bizarres, sentant plutôt la campagne que la bière. Donc j'ai acheté un paquet pour essayer. J'ai lu le mode d'emploi, on fait de la bière de ménage avec ce mélange qu'on fait bouillir, tremper, et puis un petit peu de levure de boulanger. Bon, j'ai essayé, c'est assez décevant, pour vous le cacher. Les premiers essais de bière, c'était pas terrible. Et du coup, on s'est dit, mais c'est quand même bête, ça se trouve, c'est pas compliqué de faire de la bière. On s'est trouvé quelqu'un qui nous a initié à l'art de la bière, un stage, à Montreuil, chez un prof de bio qui, le samedi et le dimanche, fabriquait de la bière pour ses copains. Et qui, tout naturellement, est passé à la démonstration, puis au stage, pour faire l'initiation. Voilà, depuis 2013, on est donc rentré chez nous avec une recette de bière et puis l'envie d'en faire. Après, pour faire de la bière, c'est pas compliqué, un petit peu de matériel, quelques bricoles, un peu d'eau, voilà, un but à gaz, et puis on s'est lancé, on a essayé. Ça a été avec des hauts et des bas, avec des grandes réussites, super. Et puis des gros échecs lamentables. Mais bon, grosso modo, c'est pas très compliqué, la bière, c'est assez simple.
Puis ça vous amusait, en fait. C'était la réunion des copains aussi.
C'est un jeu pour grandes personnes, oui. Voilà, tout à fait. Et puis la bière, moi j'ai été un buveur de bière quand j'étais ado, lycéen, les débuts de la vie professionnelle, là on buvait pas mal de bière. D'ailleurs dans les bistrots, on trouvait de la bière pas chère, pas très bonne. pas très bonne, mais moyenne. Enfin, de la bière, il y avait un peu de tout, mais de la bière, globalement, elle n'était pas très bonne. D'ailleurs, j'ai été des années sans en boire. Et puis, un jour, j'ai goûté de la bière blanche. Je ne connaissais pas. Ça m'a réconcilié avec la bière.
La bière blanche, c'est plutôt la bière belge.
Alors, bon, on va y venir tout à l'heure. La bière blanche, c'est une bière spéciale puisqu'elle est fabriquée avec du malt d'orge et du blé.
D'accord.
Alors, on va y revenir, hein, puisque je pense qu'on va parler recettes. Ouais. On va parler cuisine dans pas longtemps. Ouais. Et Michel ?
Eh bien, moi, comme j'ai une fille qui habite Bruxelles depuis une dizaine d'années, en allant à Bruxelles, j'ai pris goût à goûter des bières très différentes.
Ah oui. C'est à ce moment-là. Donc, il y a des crus de bières, on pourrait dire, presque.
Ah bah oui. D'ailleurs, il y a des bières qui sont des grands crus. Et puis nous, on finit par étoffer notre palais et faire une bonne discrimination sur les qualités gustatives de chaque bière. Donc, avec la Belgique, je me suis mis à goûter des bières différentes. Et j'ai donné un coup de main à Fred. Et puis je m'y suis mis aussi, alors là, complètement innocent. Et puis voilà, nous avons nos crus personnels.
Vous avez vos crus personnels pour la bière. Alors, finalement, il y a mal de carantites, il faut déjà les trouver. Il faut quand même avoir un matériel spécifique.
Alors, le matériel, il est assez simple. C'est quasiment du matériel de cuisine. Les marmites de 50 litres, ça se trouve sur Internet maintenant. C'est une marmite en inox munie d'un robinet qui permet d'assurer l'écoulement. Ça évite de bouger la gamelle de 50 litres, 50 kilos. Même, voilà. Oui. Surtout que c'est quand même de l'eau chaude, de l'eau bouillante. Donc, le fait qu'il y ait un robinet, c'est quand même assez pratique. Et puis, le reste, c'est des bacs en plastique de cuisine de collectivité qu'on peut trouver un peu n'importe où, munis de couvercles percés ou pas, munis de robinets tous. Voilà, on a un panier, on a une grande écumoire qui nous sert à touiller la bière. C'est pas grand-chose.
C'est vrai, ça veut dire quand même qu'il faut beaucoup d'eau.
Alors nous, on fait des petits brassins, une cuisson, une bière, voilà, une bière. On s'y met demain, on fait une bière. En gros, on fait 20-25 litres. Ça veut dire qu'initialement, on démarre avec 30 litres d'eau, 5-6 kilos de malt. Et puis qu'on attaque la cuisson.
On met le malt dans l'eau. Mais le malt.
Alors, le malt, chez nous, c'est de l'orge. Mais on fait de la bière depuis très longtemps. On faisait déjà de la bière il y a 4000 ou 5000 ans. Les Japonais font de la bière, les Chinois font de la bière, les Africains font de la bière. Et tous ces gens-là n'utilisent pas le même malt. Le système de maltage est le même, mais tout le monde n'utilise pas de l'orge. On peut utiliser du riz, on peut utiliser du maïs, on peut utiliser du blé. Pour faire de la bière.
Oui, en fait, toutes les céréales peuvent se prêter à cette transformation.
Toutes les céréales se prêtent plus ou moins. Voilà. L'orge, chez nous, c'est une céréale abondante. C'est sans doute une céréale qu'on trouve répartie un peu sur l'Europe bien avant le blé. L'orge, c'est la céréale la plus répandue. Et elle est devenue la céréale de la bière parce que c'est avec elle qu'on a le meilleur rendement de fabrication. Alors, pour faire du malt, on passe de l'orge au malt en faisant germer de l'orge dans des cuves avec de l'eau tiède pendant 2 ou 3 jours. Quand le germe mesure un petit centimètre, on passe cette orge germée dans un four pour le faire cuire, entre guillemets, cuire à peine. C'est-à-dire qu'on va le chauffer, on va évaporer l'eau. Et on arrête l'évolution. On passe de la farine à l'amidon. Important parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Et la troisième opération du maltage, c'est la dégermination. C'est-à-dire qu'on va brasser tous ces grains-là de façon à enlever les germes. Ça pourrait parfaitement servir, mais ça donnerait un goût détestable à la bière.
Et donc, c'est une opération très importante. De la qualité du malt dépendra la qualité de la bière.
Et le malt, alors vous le trouvez ?
Alors, la malterie, c'était quelque chose de très répandu au début du XXe siècle. Dans les années 1900, là, quand il y a des brasseries partout, la malterie, c'est quelque chose qu'on trouve partout. Or, il ne reste plus, aujourd'hui, que quelques très grosses malteries. Alors, nous sommes allés avec Reynald, il y a quelques années, à Issoudun, dans une malterie. La malterie, elle parle à la porte à côté, évidemment.
Oui, c'est ça.
Donc, la malterie d'Issoudun, ces grands bacs, là, ces piscines immenses, remplies de grains qui sont en mouvement, qui sont en cuisson, etc. C'est extraordinaire. Et l'autre grande malterie actuellement, c'est la malterie du Château en Belgique. Issoudun et le Château sont les deux fournisseurs. Chaque fois qu'on achète du malt, ça vient d'un de ces deux fournisseurs-là. On s'adresse à un fabricant de bière de Bonneval qui fait la Bonne Vallée. qui nous rétrocède un sac de 25 kilos de malt. On s'est adressé aux copains qui font de la bière à Rambouillet. Voilà, donc on a trouvé.
On a trouvé un
réseau de gens qui veulent bien nous vendre du malt une fois de temps en temps. Et avec 25 kilos, on en fait entre 4 et 5 brassins. Pour nous qui sommes des petits fabricants, c'est grosso modo une année de fabrication.
Oui, parce qu'effectivement, on dit on va faire de la bière, mais après, il faut la boire ou la vendre.
Et la stocker dans ce cas-là.
La stocker.
Nous, on ne vend rien. Zéro vente. Par contre, on partage volontiers. On est tout prêt à distribuer. On n'hésite pas à sortir une bouteille. Et puis, je pense qu'il faut le remettre dans la ligne des dangers de l'alcoolisme et de la boisson, etc. Il faut être très vigilant. C'est-à-dire, la bière, ça doit rester un plaisir.
Oui, parce que vous pensez que très vite, on peut dériver.
Bon, je suis sûr.
Oui, en faisant des dégustations et je déguste.
Et après, puis il y a une différence fondamentale entre boire une bière avec des copains et en boire 6 ou 7.
Oui.
Au comptoir.
Ou n'importe où.
Alors on a parlé de l'orge et du malt. Et alors le houblon. Enfin, il y a des plantes qui poussent dans les champs, c'est du houblon.
Oui, le houblon. On trouve du houblon dans les zones un peu humides. Ça aime bien être bien arrosé.
Oui, alors vous-même, vous allez...
Alors non,
vous
non parce
pas
que...
récolter au bord
alors,
de la plaine.
On va pas le récolter. Alors d'abord, parce que récolter le houblon, ça voudrait dire être vigilant au moment où il est bon à récolter. Au moment où la fleur est prête à éclore.
Ah oui, prête à éclore.
Parce qu'il faut que le pollen contenu dans la fleur soit encore dedans. Il y a un savoir-faire indiscutable, et il y a des gens dont c'est le métier. Donc on achète du houblon sur Internet, par correspondance. Donc soit sous forme de fleurs. C'est des sachets fermés, sous vide souvent, ou alors sous forme de granulés. Il a été compacté suffisamment.
Comme si c'était...
Donc on a des petits pelés qui ressemblent aux pelés de bois qu'on met dans le poêle.
Donc on met ça avec...
Alors par contre, il faut être un peu vigilant sur les quantités. Là. Et puis on met ça dans la bière. Hein. Alors il y a des modalités de fabrication, évidemment. Les houblons, comme les maltes, n'ont pas tous les mêmes qualités.
Oui.
On a des houblons... très amer et très amérisant. Quand on va les mettre dans la bière, ça va donner beaucoup d'amertume. L'amertume sur le houblon, elle se mesure en alpha. Donc, un houblon qui va avoir 12 ou 15 degrés alpha va être beaucoup plus amer qu'un houblon qui a, par exemple, 4 ou 5. Donc, on achète du houblon en fonction de ce qu'on veut faire. Si on veut faire une bière très amère ou si, au contraire, on veut faire une bière très parfumée. Et puis, on va varier les quantités. On va mettre 15 grammes ou 50 grammes.
De l'un ou de l'autre.
On va forcer ce houblon qui va être très parfumé, alors qu'on va forcer un tout petit peu moins sur ce houblon qui est très amer. Voilà. Et puis.
Alors là, on fait des essais de.
Et bien là, de temps en temps. Donc voilà, on est dans la cuisine. Alors le problème, c'est qu'on fait des essais avec des grandes quantités. Donc.
Ah oui, donc il vaut mieux quand même ne pas rater.
On essaie de rester le plus proche possible de la recette. On travaille avec des bouquins de cuisine, livres de recettes.
Ah oui, tiens, vous avez amené les bouquins. Ah oui, et puis ils sont... Oui.
Avec les petits onglets et tout. Non, mais on a vérifié, on a travaillé avant de venir.
Pour dire quelques mots sur le houblon... En fait, en France, il y en avait de moins en moins, des houblonnières. Il y en avait dans le Nord et en Alsace.
En Alsace.
Il y en a beaucoup moins, mais maintenant, ça revient très, très, très fortement. Et il y en a même qui se développent en Bretagne, parce que les Bretons sont des grands consommateurs de bière, sans doute. Et il y a de nombreuses micro-brasseries en Bretagne, donc il y a du houblon
localement
qui se fabrique. Mmh. Voilà. Et la plupart du houblon, quand même, qu'on achète, il y en a beaucoup qui viennent de Tchéquie, de Tchécoslovaquie, enfin de ces régions-là. Là, ils font de la pils. Voilà.
Oui, donc, quand vous préparez un brassin, il faut...
On réfléchit
à la cuisine.
Alors, de la même façon, on a un peu abrégé sur le malt, mais les maltes n'ont pas tous la même couleur et la même qualité. Dans une bière, on va mettre 75% de malt de base, qui a été fait avec une orge d'une certaine qualité. Alors, on ne va pas revenir depuis le début, mais il y a des orges de printemps, des orges d'hiver. Il y a des orges à 2 rangs et à 6 rangs qui n'ont pas les mêmes qualités quand on fait de la bière. On choisit tel type de malt et puis on va ajouter, donc on va faire 75% d'un malt basique, parce qu'il faut bien le corps de la bière. Et puis on va ajouter, alors tout à l'heure on parlait de bière blanche, et ben on va ajouter 3 kilos ou 2 kilos de malt de blé.
De blé.
Qui a été malté, même condition, même formation, germination, touraillage. Voilà, donc, mais c'est du malt fait avec du blé. Et on peut faire une bière ambrée, voire même une bière presque noire, dont on pourra dire qu'elle est ambrée, mais qu'elle est blanche quand même, puisqu'elle est faite avec du blé.
Oui, alors quand on dit de la bière blanche, ça veut dire que c'est de la bière faite avec du blé.
Faite avec du malt de blé, avec un certain pourcentage de blé dans la bière.
Voilà. Qui sera variable en fonction de ce que veut faire le fabricant. On peut utiliser également des maltes qui auront été grillés, donc qui pourront donner un parfum chocolaté, caramélisé ou autre. Ça peut être utilisé, ça aussi.
Mais et là, ce n'est pas vous qui le torréfiez, si ?
Ah non, non, non.
Vous ça, achetez les...
Les maltes qu'on achète tout près. Alors, je pense que ça devrait pouvoir se faire, hein. Il n'y a pas de raison. Mais bon, c'est une technicité importante. Et puis, mais le problème de la bière, c'est aussi qu'on ne peut pas faire des petites quantités. On ne peut pas faire un litre de bière. Il faut qu'il y ait une certaine quantité pour que le travail se fasse bien, pour que les températures soient bonnes, les mélanges soient bons. Il en faut une certaine quantité. Donc à 20 litres, on est quasiment à la quantité minimale.
C'est vrai. Et puis on retrouve les mêmes problèmes en cuisine, quoi. On ne va pas faire un bœuf en daube pour 3 personnes.
Voilà.
On ne fait pas un yaourt à la fois.
Oui, c'est ça. C'est... Oui.
Et puisqu'on parlait du houblon, les levures, c'est un petit peu le même problème que pour les houblons. Il y a aussi différentes levures qui vont donner elles-mêmes des goûts et des parfums différents à la bière. En fait, la bière, c'est cet assemblage de différents produits cuisinés toujours pareil, mais toujours différemment, qui fera qu'on aura une bière qui sera avec des goûts très différents.
Couleurs différentes, goûts différents.
Goûts différents.
En alcool différentes aussi.
Et avec aussi des alcools différents.
D'accord.
Des quantités d'alcool différents.
Alors une fois qu'on a rajouté toutes ces choses, on a une mixture, mais quand même il faut la mettre en bouteille, il faut capsuler, il y a tout un tas de choses tout autour de ça.
On pourrait peut-être reprendre le processus même de la fabrication de la bière, parce que ça se fait pas comme ça.
On n'arrive pas à l'embouteillage.
À l'embouteillage
tout de
suite, comme
ça. Il y a des manipulations avant.
Oui.
On s'y met un matin de bonne heure. On commence par faire chauffer de l'eau, donc la grande marmite, 35 litres d'eau.
Alors c'est 67 degrés, j'ai compris.
67 degrés.
D'un point de vue très technique, on fait même chauffer un peu plus que 67 degrés, parce que quand on va mettre le malt dans l'eau, ça va faire baisser la température.
Oui.
Donc il faut monter jusqu'à 72, 73 degrés, de façon à pouvoir redescendre à 66, 67. Et on va donc verser là, dans notre marmite entre 5 et 7 kilos de malt.
Voilà, selon la quantité. Si on veut faire une bière un peu plus alcoolisée, il faudra peut-être mettre un peu plus de malt au départ. Et là, c'est chauffé donc, pendant une heure. Ensuite...
67 degrés.
C'est ça, la difficulté.
67 degrés, même quand vous ajoutez les autres produits.
Ouais. Donc, il faut constamment contrôler la température.
La température, très souvent, la quantité d'eau étant importante, on peut même retirer la gamelle du feu et la poser sur une couverture de laine, par exemple. On va faire une espèce de marmite norvégienne qui va maintenir la température.
Oui.
Et vous savez, même déjà, quand on achète, nous, le malt, il est en grain. Avant, il faut le mouliner.
On a acheté donc un moulin, un gros moulin, plutôt un moulin à farine. Enfin, un système assez basique, avec une vis sans fin, une grille. Et puis une manivelle, hein, et puis on tourne la manivelle. Alors, de temps en temps, quand on est feignant, on met le moteur. Hein, c'est quand même plus rapide.
C'est une opération qui a aussi de l'importance. Parce qu'il ne faut pas que le grain reste trop en grain. Sinon, ensuite... Lorsqu'on chauffera ce grain dans l'eau, cette fameuse température à 67 degrés, on ne pourra pas en retirer suffisamment les sucres. Et puis si on fait quelque chose de trop fin, on a de la farine et à ce moment-là, ça ne convient plus non plus. Donc là encore...
Il faut trouver le bon granulé.
Voilà, donc ça, on a l'habitude, on sait à peu près comment ça se passe.
On parle un peu de chimie là,
ouais.
Quand ça chauffe. Donc 67 degrés, on en a parlé tout à l'heure, c'est parce qu'on a besoin d'une température fixe qui permet d'avoir un équilibre. Dans la marmite, on a mis de l'eau. Le mélange eau-malt permet de dégager des enzymes, lesquelles enzymes vont consommer l'amidon contenu dans le grain de malt. Les enzymes vont consommer les grains d'amidon. L'amidon va se trouver sectionné par les enzymes en petits morceaux. Une partie de ces enzymes vont consommer cet amidon pour en faire du sucre. L'autre partie des enzymes, alors là on va rentrer dans la super technique, alpha-amylase, les enzymes qui vont consommer l'amidon pour en faire des parties alcoolisables, la partie qui va être transformée en alcool. Et puis de l'autre côté, on va avoir des enzymes qui vont consommer l'amidon pour en faire du sucre, mais du sucre comme celui qu'on pourrait mettre dans le sucrier, et qui va donner la rondeur de la bière, la qualité de la bière, sa douceur. Et puis, ces deux sortes d'enzymes sont toutes là présentes, mais elles ne travaillent pas à la même température. Et quand on dit qu'on va rester pendant une heure à 67 degrés, c'est parce que on a l'optimisation entre la température des uns et la température des autres. C'est la température à laquelle le rendement des enzymes alpha ou bêta est le meilleur.
Voilà. C'est ces rendements qui donnent la qualité de la bière.
On va travailler là sur la qualité de la bière, effectivement. Trop de température et on va manquer d'un peu d'alcool. Pas assez de température, on va manquer de sucre. Il y a vraiment là un travail d'équilibre à maintenir avec une grande surveillance. Là, c'est vraiment la cuisine. Il faut être devant et il faut avoir le thermomètre à la main en permanence pour vraiment s'assurer que la température est bonne.
Et la cuisson, elle dure longtemps ?
Une bonne heure.
Et alors après, on...
On a fini la préparation. On va passer à l'infusion. Et on va faire monter l'ensemble à 75 degrés. Et là, si on fait chauffer trop, on va cuire notre bière et on risque de faire cramer le malt au fond de la casserole. Hein, c'est pas terrible. Si on ne fait pas chauffer suffisamment, on ne va pas dégager suffisamment de sucre en fin de cuisson.
Et si on fait trop chauffer, l'alcool va s'évaporer et à ce moment-là, on a de l'eau.
Oui, d'accord.
Et là, Michel parle de filtrage parce que nous, on travaille avec un filtre. On a versé tout notre malt dans un grand filet et à ce moment-là, on va lever notre filet pour laver avec de l'eau bien chaude, 75 degrés. On va laver notre malt qui est en train de se vider de son sucre. On va le laver pour récupérer le maximum de sucre. Et donc, c'est une opération qui dure 10-15 minutes pour le faire bien, pour que ça puisse dégager tout ce qu'il faut, comme quantité d'abord, et puis comme qualité. Si on met trop d'eau, on
elle
a de la bière
plate.
Qui va être plate, qui va être fadasse. Mmh. Mais si on ne met pas assez d'eau, on va manquer de bière, on va en avoir que 20 litres au lieu de 22. Ah bon. Donc, il y a là à nouveau un travail d'équilibre à trouver, à gérer.
Alors là, donc, la bière est faite. Alors après, il faut la faire refroidir pour la mettre en bouteille.
Alors, il faut faire cuire le jus de céréales pendant une heure.
Pendant une heure. Et là, on le fait bouillir.
On le fait vraiment bouillir. Donc, c'est là, à ce moment-là, c'est la récréation pour nous. C'est, ça peut se faire un peu tout seul à ce moment-là. Voilà. Et on va ajouter...
On parlait tout à l'heure des bières qu'on trouve un peu chez nos voisins étrangers. La pasteurisation, c'est les années 1850, mais le fait de faire bouillir la bière, là, ça a deux effets. D'abord, effectivement, la destruction des microbes. Ça arrête définitivement tous les effets de transition. Il faut couper ce travail-là. Et ça va permettre effectivement de concentrer un petit peu ce liquide sucré en le faisant bouillir pendant une heure. Et là, on finit avec du liquide à 100 degrés, donc on va le transvaser.
C'est à ce moment-là qu'on met le houblon, pendant cette cuisson-là.
Oui.
C'est à ce moment-là que la bière va prendre ses qualités. Nos mélanges de houblon, donc fait un petit peu en fonction de ce qu'on souhaite obtenir, mais qu'on obtiendra, on ne sait pas trop ce qu'on obtiendra, comme dans n'importe quelle cuisine.
Dans n'importe quelle
activité. Et donc, au bout d'une heure, c'est le refroidissement. Donc, le refroidissement du moût doit se faire le... plus rapidement possible, jusqu'à 25 degrés.
Ah oui, alors là, vous faites quoi? De l'eau froide, non?
Alors, il y a plusieurs méthodes, on en a utilisé plusieurs. Au début, on avait donc un serpentin de cuivre, 10 mètres de cuivre, tuyau d'arrosage en entrée, tuyau d'arrosage en sortie. Et on passait 200 litres d'eau. Alors, on plongeait ce serpentin là dans notre bière
à refroidir.
Et puis, on faisait couler de l'eau froide. Ça avait tendance à refroidir. Donc, en 30 minutes, grosso modo, on avait refroidi la bière aux 25 degrés nécessaires. Le problème, c'est que on avait donc balancé 250 litres d'eau dans le caniveau. Donc, on a trouvé une autre méthode. Maintenant, on fait de la bière en hiver. On attend qu'il fasse frais. On ferme hermétiquement et on le met dehors. Et donc, la nuit suffit à ramener la température à voire même en dessous de 25, parce qu'en fait, il faut être très vigilant. Et puis, quand la température est descendue suffisamment, entre 16 et 25 degrés. Si on met de la S33 ou de la M47, on a des températures différentes.
Et c'est à ce moment-là qu'on fait notre premier prélèvement pour juger de ce que pourra être le degré alcoolique de la bière.
Donc une éprouvette et puis un densimètre, on mesure la densité du liquide.
Et ensuite,
donc,
avec des tables de conversion, on a une idée de ce qu'elle sera en alcool.
On sait déjà à ce moment-là si on a bien travaillé ou pas, si on va avoir la bière qu'on voulait faire ou pas.
La désinfection du matériel, c'est aussi une action très prépondérante, parce que si on introduit des bactéries, des poussières, ça risque d'altérer la bière.
Oui, c'est ça.
Voilà. On va aborder maintenant une des dernières phases, c'est la fermentation, quand on ajoute la levure dans la bière. Voilà. Et c'est elle qui va transformer donc le sucre en alcool, c'est ce qu'on a déjà abordé
tout à l'heure.
À partir de ce moment-là, la bière va rester dans le bidon pendant 10-15 jours.
D'accord, oui.
À l'abri de la lumière et à une température qui sera le plus constante possible.
Oui, entre 18
et 20 degrés.
L'idée, c'est que la température soit à peu près constante.
Constante.
Alors, j'ai fait dans ma cave un petit placard isolé avec une grosse lampe rouge comme on utilise pour faire naître des petits poussins, là, pour qu'ils soient au chaud. Et donc, avec un thermostat, une température à peu près constante.
C'est la phase de fermentation. Et ensuite, on va arriver à l'embouteillage. Nettoyage des bouteilles qu'on recycle constamment, donc bien nettoyées avec des produits spéciaux, etc. Et on va embouteiller, donc on verse délicatement le nectar dans chacune des bouteilles, dans lequel on aura remis un petit peu de sucre pour compléter la fermentation. Ce ne sera pas l'importance de la fermentation qui aura lieu dans les 15 jours précédents, quand elle était dans le noir, mais malgré tout, ça la relance un petit peu.
D'accord. C'est une fermentation secondaire. C'est celle, quand on enlève la capsule,
qui fait
ça pchit, fait
pchit, donner la qualité des bulles.
La levure étant l'autre élément qui permet d'avoir de la belle mousse dans sa bière.
Voilà. Mmh. Et pour l'embouteillage, nous, on fait ça de façon très simple. On met des capsules, différentes capsules, puisque les goulots ne sont pas toujours les mêmes pour les bières, même si on essaye d'uniformiser notre...
Oui, pour éviter d'en avoir des quantités différentes.
Voilà. Et ensuite... Voilà. Une fois qu'il y a eu cette quantité de sucre ajoutée, la bière ne va pas être buvable tout de suite quand même. Il faut réattendre encore 3 semaines environ.
15 jours, 3 semaines.
15 jours, 3 semaines. Et après, on a le plaisir de la découvrir.
De la découvrir. Et vous mettez les étiquettes jolies.
Voilà, on fait les étiquettes au fur et à mesure. C'est le plus simple.
Eh bien, merci d'être venu nous raconter toute cette histoire de la bière locale, la bière que vous faites. Et... aussi de nous ouvrir à cette expérience. Merci beaucoup. Alors aux auditeurs, je dis, eh bien, ne vous lancez pas tout de suite. Peut-être aller déguster l'Aurélienne ou...
La Bonne Vallée, après tout.
La Bonne Vallée, oui. Voilà, quelque chose d'intéressant que j'ai eu le plaisir de découvrir grâce à vous. Et merci d'être venu à Radio Grand Ciel.
Merci Raymond de nous avoir invités.
C'est nous qui vous remercions de nous avoir invités.
Bah, les deux, voilà, je crois que c'est... réciproque.
De toute façon, la bière n'est qu'une histoire d'invitation.
Oui, c'est vrai, de convivialité.
Convivialité,
tout à fait.